énergie renouvelable,
désertification,
santé publique,
eau potable,
environnement médiatique,
développement durable,
technologie,
écologie,
économie,
droits humains,
démocratie,
respect de la vie,
politique internationale, biodiversité,
pollution, paix.
Parce que pour faire avancer les idées, il faut les brasser. Il faut commencer par en avoir, ça va toujours mieux. Vous écoutez Delirium Environnemental. Cette semaine, comme toujours, on commence par l'essentiel, revue de l'actualité en environnement. Cette semaine, c'est Nicolas Mainville et Hugo Lachapelle qui partagent leur vision de la chose. Gageons qu'ils seront question de changement climatique. Protocole de Kyoto ici au Canada, en fait, du plan d'action vers Kyoto. On parlera aussi d'OGM, on parlera de Singapour qui s'agrandit sans arrêt. Dans un deuxième temps, on a le plaisir de recevoir deux de ces jeunes qui, en février 2005, effectuaient un périple en vélo au cœur de l'hiver qui devait les mener de Québec vers Montréal, non, de Montréal vers Québec, pour aller interpeller les pouvoirs publics, plus précisément le gouvernement de M. Charest, sur l'importance de prendre des actions concrètes pour les changements climatiques, en fait, contre les changements climatiques, bien entendu. On reçoit donc à ce sujet M. Sébastien Lessard et Maude Landreville d'Environnement Jeunesse qui vont venir nous parler de ce périple. Parlant d'engagement et d'implication citoyenne. On termine l'émission cette semaine en parlant d'un projet sur lequel l'équipe de Delirium a planché tout l'hiver. Ça s'appelle le projet Fait à part. Et bien sûr, Delirium Environnemental va se terminer comme d'habitude avec les coups de cœur, coups de masse et au calendrier cette semaine. Sofiane Legendre au micro pour vous divertir, mais surtout pour vous informer. En ma compagnie, comme je vous le disais tout à l'heure, donc Nicolas Mainville et Hugo Lachapelle. Messieurs, bonjour. En vous attend que vous allez bien.
Ben oui, bonjour.
Bien entendu. Alors, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, Delirium Environnemental, c'est bien sûr un magazine d'actualité en environnement, un magazine radio, mais c'est également une cyberlettre qu'on envoie chaque semaine par laquelle vous pouvez vous tenir informé des différentes nouvelles environnementales. Et c'est bien sûr aussi un site Internet que vous trouvez au www.radiodelirium.net. Comme vous le savez peut-être, si vous êtes des habitués de la place, mais pas des vétérans, les amateurs de IAM auront reconnu. Mais si vous êtes des habitués, vous savez que de plus en plus maintenant, on se fait le plaisir de commencer par cette petite section qu'on appelle humeur. Et cette semaine, le privilège de partager son humeur avec nous revient à Nicolas Mainville qui, comme vous le savez probablement, si vous nous connaissez, sinon vous allez l'apprendre, est très préoccupé par la question des changements climatiques, mais pas seulement la question des changements climatiques, mais bien des politiques, plans et programmes desquels on se dote pour atteindre ces beaux objectifs du protocole de Kyoto. Donc, à toi l'honneur de partager ton humeur.
Mon éditorial la semaine, eh bien, il n'y aurait pas meilleure semaine de parler Kyoto, puisque, évidemment, c'est cette semaine qu'on va apprendre ce fameux plan Kyoto. Vous savez, à chaque semaine, on l'a attendu depuis la ratification même de Kyoto, la mise en application de Kyoto le 16 février dernier. Et puis, on est en avril, hein, vous le savez, et puis on n'a toujours pas de plan. Eh bien, ce plan arrive ce mercredi, et puis je me suis permis un petit éditorial là-dessus que ça va me faire plaisir de parler, non seulement sur la question Kyoto, mais bien sur la représentation de la classe politique face à la population en général. Vous savez que dans ce plan, entre autres, on va en discuter un petit peu plus longuement, mais il y a des grosses lacunes. Et puis, je pense que les réactions déjà dans le monde environnemental au Canada sont, je dirais, assez virulentes, puisque le gouvernement fédéral n'a pas réussi à tenir tête à l'industrie, à tenir tête aux grands lobbies, et c'est en fait planté considérablement.
En fait, on ne sait toujours pas qu'est-ce que va contenir ce plan-là concrètement. Par contre, certaines fuites permettent de prendre position à ce sujet parce qu'au moment de l'enregistrement de l'émission, donc mardi le 12 avril 2005, on est une journée avant la mise publique, ou plutôt le rendage public de ce plan à Kyoto.
La déclaration officielle, évidemment. Mais écoutez, moi, ce que je veux vous parler, c'est la question de la proportion de responsabilité que les industries, les entreprises ont eues, face à ce plan Kyoto, et surtout à quel point le concept de réduction n'a pas passé, malgré les efforts de Kyoto. Les efforts du gouvernement fédéral, on sait très bien que la tâche n'était pas facile, et je veux pas non plus crier contre le gouvernement sans être vraiment crédible, mais faut s'attendre à ce que ces genres de négociations-là soient difficiles, et malheureusement, comme je disais, le gouvernement s'est planté, puisque en ce moment, la représentativité même des émissions de gaz à effet de serre provenant de chaque tranche de l'industrie, notamment l'industrie lourde, comme les grands émetteurs provenant de la production d'énergie, énergies pétrolières et charbon, en plus de l'industrie lourde, bon, les grandes industries qui représentent environ 50% des émissions au Canada, se retrouvent avec une part de réduction qui est ridicule comparée à ce qu'elles auraient dû avoir. Et notamment, l'industrie de l'automobile, on en parlait la semaine passée, qui se retrouve encore une fois avec la voie facile carrément, puisque au lieu de réduire 17%, ce qu'elles auraient dû avoir à réduire, eh bien, elles se retrouvent à réduire environ 2% de leurs émissions comparativement aux efforts qu'on va demander ici au Canada en général. Et puis, ce qui est dommage, c'est qu'avec toutes ces conclusions-là, tous les efforts du plan, toutes les grandes négociations, la facture se retrouve dans les mains des contribuables. Et c'est là que je perds mon sang-froid, puisque malheureusement, il y avait une responsabilité claire par le gouvernement fédéral de mettre ses culottes et de finalement avoir cette tâche de représenter la population dans cette aventure Kyoto qu'on a décidé de faire. Et c'est exactement là qu'elle a échoué, puisque la seule personne qui était capable de confronter ce gouvernement, la seule personne qui était capable de confronter directement sans avoir de répercussions, eh bien, c'était la population. On n'a pas été capable de le faire avec l'industrie lourde, on n'a pas été capable de le faire avec les grandes compagnies pétrolières, on peut pas le faire avec l'industrie automobile. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On refait de la facture aux contribuables, notamment avec le fameux programme des crédits d'échange de carbone. Vous savez qu'on va lancer ce fameux fonds Éconet, qui est maintenant le fonds du climat. Et ce fonds du climat, écoutez, on parle de 4 à 5 milliards de dollars qu'on va investir. C'est de l'argent du gouvernement, c'est nos argents, ça, qu'on va investir, entre autres, pour les technologies pour réduire et capter le carbone, et aussi l'achat des crédits d'émission de pollution ailleurs dans le monde. Donc, ce que vous voyez, comment que ça s'est tramé, toutes ces négociations-là, et que la facture revient dans nos poches, je trouve ça extrêmement décevant, puisque on a quand même fait confiance à notre classe politique, et c'est là que ça vient chercher l'espèce de feeling général sur la déception de la population envers la représentativité de la classe politique face à la population. Donc je terminerai de la sorte en disant, écoutez, c'est décevant, et je crois que notre message maintenant en tant que population, en tant que citoyen, doit être de témoigner notre insatisfaction par rapport à cette cause qui est Kyoto, mais qui est aussi cette cause qui est représenter la population, qui dit très haut et très fort partout, écoutez, on veut faire nos efforts contre les changements climatiques, on est responsable et on veut que le gouvernement nous représente là-dedans.
Mais cette occurrence aiguë de laquelle tu parles en regard des pouvoirs publics, c'est bien partagé. Un texte de Louis-Gilles Francoeur dans Le Devoir du samedi et dimanche, parce qu'il publie seulement une fois, donc du samedi et dimanche, disent que justement il a recueilli les propos de différents écologistes, Steven Guilbeault et autres personnes très impliquées dans le domaine des changements climatiques, et de dire exactement la même chose, que ça affectait tout à fait la crédibilité du gouvernement, et en termes de volonté politique et en termes d'action concrète, puisque de demander à l'industrie de réduire seulement de 13% ses émissions de gaz à effet de serre, quand en fait ils sont responsables de 50% des émissions au Canada, c'est une vraie honte. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler.
Robin, je crois que c'est la bombe. La bombe à retardement. Le changement climatique.
Bombe à retardement? Changement climatique? Mais de quoi tu parles, Batman?
Le réchauffement de la planète. Je ne sais plus ce qui arrive, Robin. Ça va péter, je crois.
Mais voyons, c'est pas sérieux, ça va pas péter.
Les changements climatiques te préoccupent? Fais ta part pour le défi d'une tonne. Contribue à la lutte au changement climatique en prenant une douche rapide au lieu d'un bain. Une douche de 5 minutes nécessite jusqu'à 50% moins d'eau chaude qu'un bain. Pour en savoir plus, visite le www.faitapart.net parce que les changements climatiques, ça nous concerne tous.
De retour à Delirium Environnemental, vous écoutez donc toujours la revue de l'actualité, revue de presse en environnement. Nouvelle un peu décevante, en fait, une étude de l'ONU nous apprend que d'essayer de combattre la déplétion de la couche d'ozone, donc le rapetissement de la couche d'ozone, est incompatible avec la lutte au changement climatique. Hugo Lachapelle, c'est quoi cette histoire?
Eh bien oui, c'est Klaus Töpfler, un des gros boss de l'ONU qui a fait une conférence de presse suite à la remise d'un rapport qui a été rendu public lundi le 11 avril, donc, qui nous dit que oui, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que avec le protocole de Montréal qu'on a signé en 1997, on a banni l'usage des CFC, des chlorofluorocarbones, dans...
Excuse-moi, 87 et non pas 97, on s'entend?
Oui, t'as raison. Ouais. Alors, c'est ça. Remplacer les chlorofluorocarbones par différents autres produits qui étaient à ce moment-là considérés comme plus sympathiques ou amicales à l'ozone, ozone friendly comme ils disent en anglais. Donc on a changé ça par des hydrochlorofluorocarbones HCFC. C'est drôle, ça ressemble pas mal quand même. Les hydrofluorocarbones aussi, donc les HFC et une autre gamme de produits. Mais bref, ce que on utilisait ces chlorofluorocarbones là dans tout ce qui était aérosol, dans ce qui était système de climatisation et ainsi de suite, et c'était la solution pour contrer l'amenuisement de la couche d'ozone. Maintenant, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces nouveaux produits qu'on utilise, eh bien, ils ont un potentiel de contribuer au changement climatique qui est, ma foi, quand même assez élevé. En fait, on parle de quelques 5% de tous les gaz à effet de serre qui seraient envoyés, qui contribueraient au changement climatique. Il y en aurait 5% qui proviendraient de ces produits-là.
Ah ouais. Mais comment? Pas parce qu'ils émanent des gaz à effet de serre, ces produits-là, à la production?
C'est un gaz à effet de serre.
Okay. Ouais. Mais est-ce qu'ils sont comptabilisés? C'est pas les 6 gaz qui sont comptabilisés dans Kyoto, hein, si je me trompe pas.
Non, Kyoto ne traite pas de toutes les HCFC, PFC, CFC, okay. Ni PFK. Par contre, c'est ça, ils sont émis en petite quantité, mais ils ont un potentiel beaucoup plus grand que le COD, le gaz carbonique, là, qui est le gaz à effet de serre principal. Alors, on dit que ces gaz-là ont des potentiels de parfois 1300 fois plus élevé de contribuer au changement climatique. Et donc, ce que l'ONU nous dit, ben, c'est que on a essayé de mener deux luttes séparément et ça nous retombe un peu dessus. Finalement, on s'aperçoit que notre solution à l'amenuisement de la couche d'ozone vient contribuer au changement climatique. Et pour le moment, c'est pas dramatique, mais ce qu'on nous dit, c'est que finalement, tous ces fluorocarbures-là, disons, sont présents dans des frigos, systèmes de climatisation, et ainsi de suite, dans des systèmes donc qui vont être mis au rancard sans qu'on extrait ces produits-là. Et donc, plus tard, dans 5-10 ans, on va commencer à avoir beaucoup plus l'effet de ces produits-là. Et donc, c'est vraiment le temps de prendre des actions. Et il y a plusieurs actions qui peuvent être prises, mais pour le moment, bon, s'assurer que les gouvernements, ça c'est des recommandations de l'ONU, s'assurer que les gouvernements exigent la récupération des molécules de CFC et de tous les nouveaux substituts présents dans les appareils vieillissants. On parle aussi de changer, d'utiliser l'ammoniac à faible concentration pour tout ce qui est appareil refroidissant ou aérosol. Alors, mesdames et messieurs, lorsque vous utiliserez votre aérosol avec une petite étiquette ozone friendly, pas de CFC, eh bien, sachez que pour le moment, ce n'est plus une bonne nouvelle. En fait, on va devoir remédier à cette situation-là et on va sûrement voir l'apparition d'un nouvel étiquette.
Einstein avait une phrase bien intéressante, je trouve, qui s'applique très bien à ce type de problématique-là. Il disait, on peut pas régler les problèmes avec le même type de pensée que celle servi à créer ces problèmes-là. Donc, il faut vraiment changer de cadre. Peut-être que la question des aérosols, en fait, c'est les aérosols qui seraient bannis. On peut pas toujours essayer de trouver un nouveau produit pour faire que ça se propulse. Parce que le problème de la couche d'ozone, c'est bien réel. Ça a des impacts, notamment en Europe, Nicolas Mainville.
Oui, c'est impressionnant, les nouvelles statistiques qui sont sorties en Europe, puisqu'on s'était dit que le problème de l'amincissement de la couche d'ozone était pas mal assez réglé. Même Hubert Reeves écrit depuis quelques années que le problème est vraiment réglé. C'est un des exemples encourageants. Mais malheureusement, c'est loin d'être le cas, puisqu'en ce moment, en Arctique, on a remarqué un amincissement assez drastique durant l'hiver et le début du printemps, parce que vous savez, les températures très froides provoquent cet amincissement de la couche d'ozone. Et cette année, eh bien, en Arctique, on a eu dans la stratosphère, donc la haute atmosphère, des températures très basses. Et puis, on a remarqué en ce moment même que la couche d'ozone est tellement mince, c'est-à-dire qu'elle est moins de 2 mm d'épais, qu'elle affecte en ce moment le Royaume-Uni et le nord de l'Europe. Donc, le nord de l'Europe, en ce moment, est exposé à des quantités d'UV beaucoup plus grandes que ce qu'ils sont normalement. Ça fait partie d'un cycle qui, est relativement naturel, puisque les températures froides font amincir. Mais là, en ce moment, il y a plusieurs scientifiques qui disent, écoutez, avec les températures extrêmes qu'on mesure, provoquées, entre autres, par les changements climatiques, on se retrouve avec des extrêmes qui provoquent justement cet amincissement un peu trop drastique qui pourrait menacer dans les quinzaines de prochaines années, ça se dit pas du tout, la question d'exposition au UV pour les populations européennes et évidemment la biodiversité.
Un peu décevant, hein? Deux luttes qu'on croyait presque gagner, celle de la couche d'ozone, mais également celle des plus acides. On a appris en 2005 que ces deux combats-là, donc, ne sont pas du tout gagnés, qu'il va falloir peut-être même revoir les stratégies.
Et voilà.
On a quand même fait des gains au niveau de l'ozone. En fait, on s'aperçoit que le trou comme tel dans la couche d'ozone en Antarctique a rapetissé un petit peu. Mais là, c'est à se demander si la couche n'est pas en train de s'amenuiser à la grandeur du globe alors que le trou se refermerait. Est-ce que c'est l'ozone du centre du globe qui se redirige un peu pour rebalancer le tout? C'est dur à dire, là.
À savoir, on va suivre les études pour vous. Je peux-tu vous plugger une petite étude rapide sur les changements climatiques? On a mesuré ici dans le nord du Québec, en fait, c'est le Centre d'études nordiques qui a remarqué que les tourbières dans le nord, vous savez, ces environnements inondés où est-ce qu'il y a beaucoup de mousse, de sphaigne, en fait, qui est en partie construit avec les pergélisols, surtout dans le Grand Nord, enfin, on parle du 56e parallèle, eh bien, on a remarqué que dans les 30 dernières années, ces pergélisols des tourbières avaient fondu de façon drastique. En fait, le pourcentage de la superficie des tourbières qui ont été étudiées, ce pourcentage occupé par le pergélisol est passé de 82% en 1957 à 13% en 2003. D'autant plus qu'on a remarqué un taux de disparition qui a doublé depuis 1993, dont des études relativement inquiétantes qui nous montre justement les effets des changements climatiques un peu partout.
De retour à Délirium environnemental, toujours dans la revue de presse, revue de l'actualité. Hugo Lachapelle, t'as trouvé quelque chose d'assez intéressant. Il y a un réseau de citoyens qui s'est mis en branle en Europe, semble-t-il, pour se grayer en énergie verte et pallier donc au laxisme peut-être des pouvoirs publics en la matière.
Eh bien oui, le réseau énergique, en fait, c'est beaucoup plus pour s'organiser et non pour développer ces technologies-là. En fait, il y a de plus en plus de citoyens qui ont décidé, selon des directives européennes, de faire installer sur leur maison des panneaux solaires, des capteurs d'énergie thermique provenant du solaire et des éoliennes. Maintenant, ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, il y a beaucoup de ces personnes-là qui ont été fortement déçues en se disant, je vais installer ces équipements-là, je vais produire ma propre énergie et je vais pouvoir la revendre, mes excédents à l'État, à l'Électricité de France, EDF, qui est l'équivalent d'Hydro-Québec. Et donc, ce qui s'est passé, bon, c'est que finalement, tous ces gens-là, ils se retrouvent à s'apercevoir que le raccordement au réseau lui-même est vraiment beaucoup plus complexe que prévu. Ça demande beaucoup de démarches, des vérifications, toute une série de certifications, et puis, bon, des éléments de sécurité, un contrat, Donc, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de négociations, c'est toujours compliqué pour le petit producteur à la maison. Et donc, on a décidé de former une association de consommateurs où il y a des consommateurs producteurs d'électricité qui vont, eux, s'organiser ensemble pour identifier tous les blocages auxquels ils sont confrontés, pour créer des actions pour supprimer tous ces obstacles-là, pour améliorer aussi la fiscalité, pour favoriser ce genre de mesures-là. Donc, le réseau, on va vous mettre le lien, en fait, en fin d'émission.
C'est quoi le nom encore?
Énergique. Alors, apostrophe C à la fin.
Bien intéressant comme projet. Je serais curieuse de savoir s'il existe ce type de regroupement-là ici au Québec, parce que quand on se met à chercher pour se griller en énergie de façon autonome, c'est pas évident d'y voir clair.
Je pense que pour le moment, c'est ça, il y en a pas. Alors, je trouvais ça vraiment intéressant de montrer qu'en Europe, il y a une petite longueur d'avance sur nous. Ils ont déjà pris ce genre de mesures-là. Il y a ce type d'organisation-là qui est en train de se mettre en place, et ça devrait nous inspirer fortement, nous qui avons revisité le potentiel éolien depuis le mois de novembre passé, je pense.
Environ, oui. Tout à fait, un exemple à suivre, c'est certain. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui connaissaient des ressources pour se griller en énergie alternative ou ce type d'informations-là pour être disponible, n'hésitez pas à nous contacter, ça nous fera plaisir d'en faire la publicité. Et Nicolas Mainville, d'un autre côté, gaz à effet de serre, le CO2 en est un qui est relativement puissant, et les États-Unis prennent dans le manche.
Bien, ça brasse beaucoup aux États-Unis, vous savez, depuis que le Canada a ratifié Kyoto et puis qu'on négocie avec l'industrie, les États-Unis nous regardent aller. Et puis, déjà depuis 2003, il y avait des pressions de certains États états-unis pour que la EPA, la Environmental Protection Agency, réglemente les émissions de gaz à effet de serre, et surtout du CO2, mais en fait, les émissions de gaz à effet de serre en général. Et puis, c'est un petit peu le même discours qui s'est retrouvé ici au Canada, il y a deux semaines, avec la question du mot toxique. Vous vous rappelez de ça, dans la loi de protection canadienne sur l'environnement, on s'ostinait à savoir est-ce qu'on enlève ou est-ce qu'on laisse le mot toxique pour essayer d'inclure les gaz à effet de serre dans la réglementation des lois. Eh bien, en ce moment, c'est 12 États américains avec des villes états-uniennes et aussi certains groupes de pression en environnement qui se mettent ensemble pour aller en appel, aller en cours contre la EPA, en fait, pour forcer la EPA à réglementer les gaz à effet de serre. Parce qu'il faut se rappeler qu'au mois d'août 2003, la EPA avait carrément rejeté une pétition qui venait de je sais pas combien de dizaines de milliers de personnes pour que justement les États-Unis emboîtent le pas, non pas en tant que quantité, c'est-à-dire l'administration Bush, mais bien chaque État ait le droit d'utiliser une loi selon la EPA qui réglemente les gaz à effet de serre.
Mais la EPA, qui est la Environmental Protection Agency, avait refusé ça?
Elle a refusé parce que, entre autres, elle se disait qu'elle n'avait pas l'espèce de pouvoir qui lui donnait ça, mais faut s'entendre que la EPA est relativement corrompue, surtout avec son ancien directeur qui était pas très très chaud à lutter contre l'industrie automobile.
Et le nouveau directeur n'est pas un grand chum à George Bush, non?
C'est touché, en fait. Je le connais pas personnellement, je l'ai jamais rencontré, mais je pourrais pas vous dire c'est quoi, ça va être quoi la position de la EPA comme telle. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a mobilisation au sein même des États et des villes. On parle entre autres des villes de New York, Washington et Baltimore, et puis des États évidemment comme la Californie qui se met avec New York, le Nouveau-Mexique, le New Jersey, pour se mettre ensemble et vraiment faire pression. À regarder ça aller, je pense que c'est extrêmement intéressant puisque le précédent qui est en train de se créer au Canada donne de l'énergie, on dirait, un espèce de nouveau souffle aux États-Unis pour ceux qui croient encore qu'on peut justement lutter contre les changements climatiques, malgré que les discours officiel de l'administration Bush et les discours officiels même des juges qui vont regarder cette cause-là ne reconnaissent pas la question des changements climatiques, et c'est ça qui est incroyable. Malgré les conclusions des dizaines de rapports de l'ONU, malgré les associations de scientifiques, de milliers de scientifiques qui se mettent ensemble, il y a encore cette espèce de scepticisme à dire, écoutez, les changements climatiques, on sait pas si ça vient des gaz à effet de serre, on n'est pas convaincus, on veut même pas adopter cette espèce de mentalité-là. Donc, évidemment, les gens qui luttent contre les changements climatiques aux États-Unis et qui veulent cette réglementation-là, ben, se frappent à un mur quand même assez, assez imposant, qui est carrément le scepticisme. Et pour y aller d'une tranche de vie, j'étais dans les consultations publiques hier du monsieur le ministre Mulcair sur le développement durable, et c'est exactement la même attitude qui est prise ici au Québec sur certains sujets, c'est-à-dire d'utiliser l'espèce de manque de preuves ou la guerre des chiffres, ou dire non, c'est pas vrai, tu sais, juste carrément dénier certains problèmes qui sont de plus en plus décriés, pour essayer de se libérer de cette responsabilité-là, la responsabilité politique de dire, écoutez, il y a des gens qui sont inquiets, il y a des gens qui veulent que ça change, et tant que la politique se départisse de cette espèce de lien avec les lobbies, les grands lobbies pétroliers et automobiles, entre autres. Donc, intéressant à regarder comme sujet. J'ai hâte de voir comment cette conclusion va peut-être faire avancer le dossier, et peut-être si la EPA peut remettre ses culottes et redevenir le défenseur de l'environnement. C'est vraiment ça, sa job. On va peut-être ouvrir un nouveau pont.
J'ai appris quelque chose de surprenant, parce qu'on parle beaucoup de gaz à effet de serre ces temps-ci, le CO2 en est un. J'ai appris que si c'était pas des gaz à effet de serre qui sont émis par les Québécois et Québécoises, c'est-à-dire que la moyenne est comme la plus basse au pays, entre autres à cause de l'électricité, le Canada dépasserait en termes d'émissions de gaz à effet de serre les États-Unis.
Tout à fait, on est des très grands émetteurs de gaz à effet de serre. Le Québécois moyen émet 12 tonnes par année. Et je pense que la moyenne canadienne est autour de 20, donc on a vraiment une legacy plus faible point de vue émission de gaz à effet de serre, évidemment dû à notre source d'énergie qui est l'hydroélectricité, qui émet des gaz à effet de serre, mais beaucoup moins que les centrales au charbon. Mais faut pas penser qu'on est des moins grands consommateurs d'énergie, par contre, c'est là toute la question.
Merci de cette précision. On y reviendra en dernière partie d'émission, bien entendu. Pour l'instant, on s'arrête un peu et au retour, on parle d'aménagement urbain, particulièrement ici à Montréal, avec l'échangeur des pins qui va être rénové, qui est une belle nouvelle, mais aussi le plan de transport de la ville de Montréal qui est prêt, semble-t-il?
Oui.
Yvon?
Non.
Ah, il me semblait que c'était trop beau aussi.
Ah,
OK, merci.
Bob.
Quoi, Bill?
As-tu vu le nouveau modèle de véhicule sport utilitaire, toi?
Ben, certain. Les plus gros, ils brûlent 24 litres aux 100 km.
Va bien falloir qu'on agrandisse la porte du garage bientôt.
Tu en as ras le pompon des changements climatiques? Eh bien, faites ta part pour le défi d'une tonne en boycottant les véhicules sport utilitaires. Ces véhicules consomment 3 fois plus d'essence et peuvent émettre jusqu'à 9 tonnes de gaz à effet de serre par année. C'est 2 fois plus qu'un véhicule conventionnel. Pour en savoir plus, visite le www.faitapart.net. Parce que les changements climatiques, ça nous concerne tous.